Je vous invite à ouvrir votre Bible, si vous l'avez apportée, dans le Nouveau Testament, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 3, au verset 27. Nous lirons donc du chapitre 3, verset 27 de l'épître aux Romains, jusqu'au chapitre 4, verset 8. Nous écoutons la parole de Dieu qu'il a donnée par son esprit à son apôtre, son envoyé Paul, le guidant de telle sorte que ce soit vraiment la parole de Dieu que nous puissions entendre. Dans le paragraphe qui précède, l'apôtre résume ce qu'il a démontré. Tous ont péché, tous les hommes ont péché, et sont, par un juste jugement, privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu ouvre une voie nouvelle, et il trouve le moyen d'être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus, nous dit le verset 26. Et l'apôtre enchaîne. Où donc est la fierté? Elle est exclue. Par quelle loi? Celle des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous estimons que l'être humain est justifié par la foi en dehors des œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, s'il est vrai qu'il y a un seul Dieu. C'est lui qui justifiera les circoncis en vertu de la foi et les incirconcis en vertu de la foi. Alors, au moyen de la foi, réduisons-nous à rien la loi? Jamais de la vie. Au contraire, nous confirmons la loi. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si en effet Abraham a été justifié en vertu des œuvres, il a de quoi être fier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté, non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David dit le bonheur de l'être humain à qui Dieu compte la justice en dehors des œuvres. Heureux ceux dont les désordres sont pardonnés et dont les péchés sont recouverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient aucun compte du péché. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Il n'y a que la foi qui sauve. Vous avez sans doute entendu cette expression quasi proverbiale, et on pourrait croire qu'elle paraphrase le second principe, le second presque slogan de la réforme, réformation, sur lequel nous concentrons notre réflexion aujourd'hui, sola fide en latin, c'est-à-dire par la foi seule. Il n'y a que la foi qui sauve, par la foi seule. En fait, je pense que, quant au sens, rien ne pourrait être aussi éloigné du sens de la formule de la réformation, par la foi seule, que cette expression courante. Cette expression courante, on l'emploie le plus souvent de façon ironique. C'est quand quelqu'un se lance dans une entreprise qui a assez peu de chances de réussir, mais dont on se dit que peut-être son enthousiasme, peut-être les ressources de la confiance qu'il a en lui-même vont lui permettre malgré tout de réussir, qu'on prononce une telle phrase. Il n'y a que la foi qui sauve. Quand nous disons « par la foi seule » au sens de la réformation, nous disons tout le contraire. Nous disons que les ressources propres que l'homme peut trouver en lui-même ne le conduisent qu'à l'échec, ne le conduisent au bout du compte qu'à la perdition. Nous disons que ce n'est pas la démarche humaine comme telle si sympathique qu'elle puisse être, qui conduit au salut, mais la foi. Alors, qu'est-ce que la foi ? Nous allons le voir dans quelques instants. Mais il faut dire deux choses, encore en titre, à titre d'introduction, de préliminaire. Cette expression, donc, concerne la foi qui sauve. Le problème sous-jacent, c'est le problème du salut éternel, de la justification devant Dieu, c'est-à-dire de l'acquittement au tribunal du jugement dernier, au tribunal du Dieu qui est le juge de toute la terre. Le « par la foi seul » concerne ce souci qui était une angoisse largement partagée au XVIe siècle. Comment vais-je faire pour apaiser l'indignation juste de Dieu contre toutes les fautes que j'ai commises? Comment puis-je être agréé de lui? Comment puis-je être justifié à son tribunal? C'est par rapport à cette question que le « par la foi seul » est proclamé. Et puis, deuxième précision, la formule s'opposait à une formule contraire, qui était la formule que défendaient les controversistes de l'institution catholique de l'époque. La formule typique, c'était « par la foi et les œuvres ». Surtout pas la foi seule, mais la foi et les œuvres. Nul ne peut être sauvé s'il n'accumule pas suffisamment d'œuvres valant mérite devant Dieu. C'était là la position opposée, et j'ai recopié les formules du Concile de Trente, le Concile qui s'est réuni pour contrer la Réformation et procéder à une certaine réformation, d'ailleurs, intérieure de l'Église catholique romaine de l'époque. Le Concile qui s'est réuni à Trente en Italie, dans sa session numéro 6 du 13 janvier 1547, a ainsi défini les choses. Personne ne doit se flatter d'être sauvé, sous-entendu, par la seule foi, pensant ainsi être constitué héritier par la seule foi et devant recevoir l'héritage, même s'il ne souffre pas avec le Christ pour être glorifié avec lui. Là, il y a une allusion à un verset de l'Épître aux Romains plus loin, au chapitre 8, mais il s'agit des œuvres. Souffrir avec le Christ, c'est un ensemble d'œuvres méritoires. Et le Concile a voté un canon, une sorte de résumé plus succinct encore. Si quelqu'un dit, c'est le canon numéro 9, si quelqu'un dit que l'impie est justifié par la seule foi, pour ainsi comprendre que rien d'autre n'est requis par quoi il coopérerait à la grâce qui apporte la justification, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Voilà le canon du Concile de Trente. Alors bien sûr, ce que rejette ce concile, dans les formulations que je viens de citer, ce n'est pas la vraie position des réformateurs. Elle est caricaturée, il y a une grosse part de malentendus qui jouent en l'affaire. Et nous allons commencer par éliminer ces malentendus, déblayer le terrain, comme nous l'avons fait aussi à propos du sola scriptura, par l'écriture seule, la semaine dernière. Nous allons déblayer le terrain, les méprises qui sont courantes et qui n'ont pas toutes disparu aujourd'hui. Elles se concentrent surtout sur les deux mots-clés, la justification et la foi. Et puis, il y aura aussi un commentaire explicatif à ajouter sur le mot « seul ». La justification d'abord. Le problème de la conversation même avec les catholiques des réformateurs, c'était qu'ils n'entendaient pas la même chose sous le mot de justification. Les théologiens catholiques qui parlaient latin étaient tentés par l'étymologie latine du mot justifié de croire qu'il s'agissait de rendre juste effectivement le pécheur ou l'impie. Faire en sorte qu'il se mette à pratiquer les œuvres justes qui lui permettraient alors d'être agréé de Dieu. Il faut reconnaître qu'en français, donc le mot vient du latin, le suffixe fier, justifier, est de la même racine que le verbe faire, et que quand on parle latin ou français procédant du latin, on peut croire qu'il s'agit de rendre effectivement juste. Mais ce n'est pas le sens, cela peut être à mon avis parfaitement prouvé, des verbes bibliques en grec pour le Nouveau Testament, en hébreu pour l'Ancien Testament, que l'on traduit justifié. Le verbe grec employé dans l'épître aux Romains et partout ailleurs dans le Nouveau Testament, il n'a jamais voulu dire rendre juste effectivement dans sa conduite quelqu'un. C'est une expression qui concerne l'acquittement au tribunal. Celui qui est justifié, c'est celui qui est déclaré en règle avec la justice et ses exigences. Pour l'Ancien Testament, je cite un passage qui est parfaitement typique. Au premier verset du chapitre 25 du Deutéronome, Dieu donne l'ordre au juge que le criminel soit condamné et que l'innocent soit justifié. Il est exclu de justifier le criminel. Le juge commettrait un crime de forfaiture s'il justifiait le criminel. Il ne s'agit pas de le rendre juste effectivement, ça tout le monde peut le souhaiter. Il s'agit de le déclarer juste, de telle sorte qu'il est en règle. C'est ça le sens biblique du terme. Et d'emblée, la différence de compréhension du mot justifier créait un malentendu entre ceux qui restaient catholiques à l'époque et ceux qui acceptaient la réformation. Deuxième malentendu sur le mot foi. Les catholiques en général l'entendaient au sens d'une simple croyance. Le fait d'avoir comme opinion que oui, ce qui est dit est juste, est exact, est vrai. Une telle foi ne sauve pas. Et l'épître de Jacques le souligne très fort. Les démons aussi, ils croient de cette façon. Et ils tremblent. Ça ne les sauve pas. Ils savent bien que le Christ est le Fils de Dieu. Et certains démons l'ont même crié, lorsqu'ils ont fait crier aux personnes qui étaient démonisées au passage de Jésus. Tu es le Saint de Dieu. Ils le savent bien. Mais dans la haine pour cette vérité même qu'ils connaissent, ils sont perdus. Et la croyance, donc seule, qui voltige au cerveau, comme disait Calvin, c'est une expression qu'il aimait employer, elle ne sauve pas, c'est sûr. Mais la foi dont les réformateurs parlaient, lorsqu'ils disaient par la foi seule, et la foi dont parle l'apôtre Paul dans le texte que nous venons de lire, ce n'est pas simplement cette croyance. C'est une démarche qui engage toute la personne, qui part du plus profond de l'être et qui noue une relation nouvelle. C'est une projection de soi dans la miséricorde de Dieu. C'est comme si on se jette dans ses bras. Il y a plusieurs images bibliques d'ailleurs qui le disent. Nous en avons chanté une il y a quelques instants. À ce fleuve de l'amour de Dieu, je m'abandonne. Je crois, je me laisse entraîner par le fleuve de l'amour de Dieu. Il y a l'image du rocher qui est très fréquente dans la Bible. C'est le rocher de refuge. Je suis cerné de toutes parts. Peut-être les vagues, je m'accroche sur le rocher. C'est ça la foi. Je m'établis sur le rocher sûr et solide. Et encore une autre image très significative que le Seigneur Jésus a employée dans le grand discours de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6. Croire en Jésus, c'est non seulement venir à lui, mais c'est le manger. Le manger. Manger la chair de Jésus, fils de l'homme, et boire son sang, c'est ça, croire en lui. On voit très bien dans le chapitre que ces deux expressions sont employées de manière synonymique. C'est s'approprier non seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il est. Vraiment s'unir à lui profondément. Alors, ce n'est pas littéral, bien sûr, c'est une image. Jésus l'a en avertit, d'ailleurs, dans ce chapitre 6, en disant les paroles que je vous ai dites, sont esprit et vie. La chair ne sert de rien, ne comprenez pas ça de façon charnelle. Mais la foi, vous voyez, c'est tellement plus que la simple croyance qui voltige au cerveau. Alors, on peut noter au passage qu'il faut que cette croyance soit là. et que si les gens qui ont cette croyance ne font pas la démarche personnelle, c'est une inconséquence. Si on croit que c'est vrai, alors il n'y a qu'une seule façon de faire qui soit saine et raisonnable, c'est de se projeter dans la miséricorde de Dieu. Mais hélas, l'homme pécheur est inconséquent. Et puis troisième malentendu, sur le mot « seul », par la foi « seul », oui, et on a beaucoup reproché à Luther dans sa traduction du verset que nous avons lu, chapitre 3, verset 28, « L'homme est justifié par la foi en dehors des œuvres de la loi », d'avoir rajouté dans sa traduction « seulement ». Il a rajouté les Bibles en allemand aujourd'hui encore, j'en ai une, enfin, pas toute récente, mais du siècle dernier, les Bibles en allemand encore ont ce mot « seul », seulement, « allein », par la foi seul. On lui a reproché, mais c'est dans le verset, c'est en dehors des œuvres de la loi, par la foi. Il ne faisait qu'expliciter, c'est comme ça qu'il s'est défendu, c'est par la foi seul que nous sommes en effet justifiés au tribunal du juste juge, mais comme l'a dit l'assistant de Luther, et Luther était d'accord, Melanchthon, la foi n'est jamais seule. C'est par la seule foi que nous sommes sauvés, mais si la foi est vraie, elle n'est jamais seule. Et c'est encore le malentendu qui empêchait à ce moment-là au moins les théologiens catholiques et les théologiens de la Réforme de s'entendre. Le fait que la foi n'est jamais seule, nous allons essayer de développer un peu ce point dans quelques instants, nous montre la complexité du rapport biblique entre la foi et les œuvres. Nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres, et pourtant la foi n'est jamais sans les œuvres. Ce qui veut dire que c'est un peu subtil, et en tout cas que ça mérite d'être regardé de plus près. Alors, je vous invite à considérer d'abord le sens de la formule « par la foi seule, sola fide », une fois les malentendus écartés, et de venir ensuite à une considération plus précise du rapport avec les œuvres. Il y a une voie des œuvres pour être justifié devant Dieu. C'est la voie qu'on pourrait dire naturelle, normale, logique. C'est la voie de la responsabilité. La voie des œuvres pour être justifié devant Dieu, c'est très très simple. Tu obéis à la loi, tu fais ce qui est juste, tu es déclaré juste. C'est correct. Voilà. Tu es quelqu'un de responsable, tu as entendu le commandement de Dieu. Si tu le suis, si tu le respectes, eh bien Dieu t'approuve, Dieu à son tribunal t'acquitte, et voilà, tu es justifié. C'est la voie naturelle, normale, des œuvres. Et il y a un pan seulement de ce que Dieu a communiqué par Moïse au peuple d'Israël qui rappelle ce principe. On trouve au chapitre 18 du Lévitique, le livre du Lévitique, verset 5, et Paul cite deux fois ce texte pour définir la voie des œuvres. « Celui qui fera ces choses, les choses prescrites par la loi, vivra par elles. Il obtiendra la vie au tribunal de Dieu. Il sera acquitté. Celui qui fera ces choses vivra par elles. » C'est logique. Et ça correspond aux paroles prononcées par le Créateur en Éden. Tu peux manger de tous les arbres du jardin librement, et tu jouis de la vie que je te donne, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire de la prétention à l'autonomie, avec ton petit Dieu, de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Tu mourras certainement. Voilà. Tu continues d'obéir. L'homme était placé dans une parfaite relation d'harmonie avec Dieu, et c'est la vie. Tu es approuvé de Dieu, mais le jour où tu te prétends indépendant, tu fais ce que tu veux plutôt que de suivre la volonté de Dieu et le bien, eh bien tu mourras. C'est la voie des œuvres. le problème, comme Paul le démontre dans la première partie de l'Épître aux Romains, deuxième partie du chapitre 1er jusqu'à presque la fin du chapitre 3, le problème c'est que personne, par cette voie des œuvres, ne peut être justifié. Tous ont péché. Tous les humains, à partir des premiers parents, ont choisi la voie qui s'éloigne de la volonté de Dieu et qui mène à la perdition, qui mène à la mort. C'est ça le problème de la voie des œuvres. Ce n'est pas que la loi soit mauvaise, ce n'est pas que le principe même des œuvres soit mauvais en lui-même, mais c'est que personne n'atteint la barre, personne ne peut satisfaire le Dieu trois fois saint, dont les yeux sont trop purs pour voir le mal. Et c'est cela que tout spécialement les théologiens catholiques de l'époque, je crois, ne saisissaient pas la rigueur de l'exigence sainte de Dieu. Trois fois saint. Impossible de le satisfaire avec des œuvres qui seraient quand même assez bonnes, mais toujours entachées de péché, comme le sont toutes les œuvres que nous sommes capables de produire. Impossible de le satisfaire ainsi. Au chapitre 64 du prophète Ésaïe, au verset 5, il y a un verset extrêmement solennel. Je trouve que c'est le plus fort de toute la Bible à ce propos. Dieu dit que au peuple, à son peuple, que tous les actes de justice qu'il lui présente sont pour lui comme un vêtement souillé. C'est une expression que même la traduction ne rend pas dans sa force. C'est le pire tabou, quelque chose d'excrémentiel, d'horrible. Voilà vos actes, à mes yeux, dit le Seigneur. Vos actes, pas de péché, de justice. Vos actes de justice sont pour moi comme ça. À vomir. Parce qu'ils sont entachés de péché, bien sûr. Ce n'est pas en tant qu'ils sont actes de justice, mais une justice qui est tellement mêlée d'autres choses que Dieu ne peut pas, dans sa justice parfaite, dans sa sainteté, les tolérer, les approuver. C'est là le problème de la voie des œuvres. La voie des œuvres ne conduit qu'à la perdition. D'où la nécessité d'une autre voie, radicalement différente. Et c'est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. La voie de la simple foi. Il justifie l'impie, celui qui n'a aucune œuvre bonne, parfaitement bonne à proposer. Il justifie l'impie même par la seule foi. Simplement s'il se confie en lui, simplement s'il se projette, selon l'expression que j'ai déjà employée, dans la miséricorde de Dieu, s'il saisit sa promesse. Rien d'autre. C'est cela que Dieu rend possible. Abraham n'a pas été justifié par les œuvres qu'il avait, c'est un honnête homme, les œuvres qu'il aurait pu présenter, mais parce qu'il a cru, simplement parce qu'il a cru en la promesse de Dieu. Voilà le verset que l'apôtre Paul va chercher dans la Genèse, au chapitre 15. Abraham crut à Dieu. Et c'est ça qui a fait que Dieu l'a justifié dans son jugement. Il a dit, tu es en règle avec moi. Et tu es maintenant mon ami. Abraham crut à Dieu. C'est la foi qui est l'autre voie. On pourrait dire aussi bien par la grâce. C'est un pur cadeau de la part de Dieu. Alors si on regarde les choses du côté de Dieu, c'est un pur cadeau grâce. Et si on regarde du côté de l'homme, c'est une simple réception, simplement recevoir ce que Dieu donne, la foi. C'est ce que dit le verset qui a été lu l'an dernier, la semaine dernière, excusez-moi, la semaine dernière par M. Blanc. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce sont les deux faces de cette même réalité. Si c'est par grâce, c'est par la foi seule. Si c'est par la foi seule, c'est que c'est par grâce, par pure grâce de Dieu. Ce message a un double effet. premier effet, c'est qu'il nous humilie. Qui peut être fier ? Personne. Ce ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se vante. Où est la fierté ? Exclue par la loi de la foi. Eh oui, si c'était nos œuvres qui nous permettaient de tenir devant Dieu et d'approcher de lui sans la crainte d'un foudroiement, alors nous aurions de quoi, disons, être fiers. Nous pourrions dire, voilà, c'est que j'ai été assez bon pour que Dieu m'agrée malgré tout. Si quelqu'un fait une œuvre, il a un salaire, dit l'apôtre Paul dans le passage que nous avons lu au début du chapitre 4. Mais maintenant, c'est exclu. Donc, c'est humiliant. Hein. C'est par pure grâce, comme un criminel qui a été condamné à mort et purement gracié par le président de la République, hein. Enfin, c'était l'ancien système, pour la condamnation à mort. Pure grâce. Alors, c'est humiliant. Mais en même temps, c'est libérateur. Cela permet une assurance que jamais la voie des œuvres ne permettrait d'atteindre, même si elle était praticable. Comme c'est par pur grâce, un pur cadeau de Dieu, nous n'avons plus à nous soucier d'acquérir des mérites. Nous n'avons plus à redouter de tomber par notre faute hors de cette grâce. C'est par pure grâce que nous sommes sauvés. Si nous recevons ce don que Dieu nous offre dans sa promesse. Et là aussi, les réformateurs l'ont fait valoir très, très fortement, parce que la piété catholique, même chez ceux qui étaient les plus remarquables, ne s'accompagnait pratiquement jamais de cette assurance paisible. Eh oui, Dieu m'agrée à cause de Christ, non pas à cause de moi-même, simplement parce que je reçois le don qu'il me fait. Mais alors, le rapport aux œuvres. L'obéissance au commandement de Dieu demeure obligatoire, bien qu'elle ne soit plus une condition du salut. Alors, obligatoire, dans quel sens ? L'obligation de faire le bien, elle existe toujours, le bien est le bien. Et si quelqu'un ne fait pas le bien, il renie ce pourquoi l'homme a été créé dès l'origine. L'observation des commandements de Dieu demeure la norme qu'il faut appliquer si l'on veut être dans le bien, dans la voie, si l'on veut plaire à Dieu dans sa conduite. Oui, la loi continue d'être juste, sainte et bonne, et un chemin de vie pour qui pratique les commandements de Dieu. Alors, il n'y a plus nécessité pour être sauvé, mais il y a une sorte de nécessité pour montrer qu'on est sauvé. Une nécessité pour que l'authenticité de la foi qui joint à Dieu en Christ soit ainsi démontrée. C'est la foi qui est morte, qui ne produit pas de vrais fruits. Pas d'œuvres. Alors ces œuvres sont certes toujours imparfaites, elles ne suffiront jamais à nous justifier devant Dieu, mais elles prouvent qu'il y a une foi authentique, qu'il y a une adhésion au Christ de Dieu, qu'il y a une union de vie avec lui. Si la foi ne produit pas de fruits, elle est morte, ce n'est que la croyance qui ne sert à rien, avec laquelle on est inconséquent. Voilà ce que dit l'épître de Jacques au chapitre 2. Si les formules ont l'air de s'opposer à celles de Paul, en fait, ils sont bien d'accord. Jacques exclut une foi qui n'est que simple croyance et qui est morte. Et l'apôtre Paul, dans beaucoup de passages, souligne que si la foi ne produit pas les fruits de l'esprit, eh bien, il n'y a pas d'héritage du royaume de Dieu. Il n'y a pas de salut au bout du compte, parce que, en fait, la foi est une foi fausse, un simulacre de foi. Paul et Jacques sont en fait sur la même longueur d'onde. Et il est intéressant de voir comment l'apôtre Paul rappelle à ses lecteurs, dans l'Épître aux Romains encore, que la vraie foi, en effet, ne peut pas représenter la continuation d'une vie de péché. Ce n'est pas possible. C'est au chapitre 6 de l'Épître aux Romains qu'il le montre. Et il le montre en se référant à l'expression de la foi, qui montre bien ce qu'est la foi, le baptême. Il dit, certains prétendent que nous préconisons de continuer à vivre dans le péché, puisque nous disons que c'est par la seule foi que nous sommes sauvés. Il y avait des gens pour comprendre de travers de cette façon, exactement comme les catholiques comprenaient les réformateurs. Mais si on dit ça, alors par la foi seule, ça veut dire qu'on encourage à continuer le péché. Le fait que Paul étudie des contradicteurs qui tombaient dans le même malentendu que les catholiques au XVIe siècle montre bien que c'était le même message, que les réformateurs avaient bien retrouvé le message que l'apôtre Paul avait été chargé d'apporter. Et comment répond donc l'apôtre Paul ? Mais regardez votre baptême, qui est l'expression de votre foi. Celui qui a été baptisé, il est baptisé comme un enterrement de son vieil homme, de son vieux personnage, de ce qu'il a été. C'est par rapport à la mort de Jésus, à qui il s'identifie symboliquement dans le baptême, qu'il a été baptisé. Alors on ne peut pas continuer à vivre comme avant si on est mort, à ce qu'on était autrefois. Voilà la logique que l'apôtre Paul développe au chapitre 6. Le baptême, c'est comme une image qui démontre ce qu'est la foi, s'unir à Jésus-Christ dans sa mort pour abandonner son ancienne vie et vivre avec lui d'une vie nouvelle. Et l'apôtre Paul dit, vous voyez, donc, si vous êtes dans la foi, vous ne pouvez pas continuer à commettre les péchés. Vous devenez enfant de Dieu pour vivre selon Dieu. Voilà une intéressante façon aussi de situer le baptême. Le baptême que j'aime présenter un peu comme l'enterrement, la cérémonie d'enterrement du vieil homme, du vieux personnage qu'on a été. Et puis une deuxième référence qui me paraît utile, c'est que Calvin, le réformateur Calvin, dans son grand livre « L'institution de la religion chrétienne », au livre 3, chapitre 15, verset 21, va jusqu'à dire que les œuvres, du coup, deviennent des causes inférieures de notre salut. Alors il dit la vraie cause, c'est la miséricorde de Dieu, la pure grâce. Mais du fait qu'elle montre que Dieu en effet agit dans notre vie pour nous permettre d'obéir à ses commandements, il va jusqu'à l'expression de cause inférieure, subordonnée à celle de la grâce de Dieu. Et il y voit comme un enchaînement des grâces de Dieu. Il dit que Dieu, en ajoutant grâce sur grâce, prend occasion des premières grâces pour les augmenter par les secondes. Les œuvres sont considérées comme une fructification de la grâce. Dieu continue d'augmenter l'action de sa grâce dans notre vie. Une énigme douloureuse, cependant, nous affronte sur ce chemin. La foi véritable porte un fruit d'œuvre dont Dieu, dans sa grâce, couvre les imperfections. La justice de Christ permet aussi que nos œuvres soient agréées, bien qu'elles ne le soient pas en elles-mêmes, n'étant pas parfaites. Mais que dire de certains qui semblaient avoir la foi, qui sont passés par le baptême, qui semblaient tout feu tout flamme pour le Seigneur pendant tout un temps, et qui sont tombés très loin, qui refont les choses qu'ils faisaient avant de se convertir à Jésus-Christ, qui ne considèrent plus les commandements de Dieu. Que dire de ces personnes ? C'est une énigme douloureuse. Je pense qu'on peut envisager deux cas d'après l'Écriture. Le cas de la foi non authentique. Eh oui, ça existe. Une foi qui a l'air d'être tout à fait ce qu'elle devrait être pendant un premier temps, et puis qui n'est pas authentique. Dans la parabole du semeur que le Seigneur Jésus lui-même a raconté, il parle de cette semence qui tombe sur un sol rocailleux, qui lève tout de suite. Oui, ça a l'air très bien, c'est magnifique, même plus rapide que la semence qui tombe dans la bonne terre. Mais ce n'est pas le salut, là. Ce n'est pas le salut. Ce n'est pas la foi authentique, elle n'a pas de racine. C'est un cas qui existe, et je crois que nous devons nous rappeler, et en nous examinant nous-mêmes, hein. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, dit l'apôtre Paul. Nous examinez nous-mêmes pour savoir si notre foi ne serait pas par hasard celle du sol rocailleux qui n'a pas de racines, qui n'est pas la vraie foi. Ça, c'est le premier cas. Je pense que le Nouveau Testament nous montre qu'il y a cependant un autre cas extrêmement bizarre de vrais croyants qui font naufrage quant à la foi, qui se laissent regagner par des péchés terribles. Et l'apôtre Paul dit que la discipline de l'Église doit s'appliquer pour que la chair soit détruite et que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 6. C'est tellement contradictoire, c'est tellement incroyable que de vrais croyants puissent à ce point s'éloigner du Seigneur qu'on ne peut pas l'expliquer. C'est un cas limite. Je pense que ça existe quand même. Cela peut aussi nous induire à l'espérance pour des personnes que nous aimons et qui se sont éloignées. Mais cette contradiction si choquante, hein, entre une vraie foi qui resterait plus que comme un lumignon qui fume, hein, tout au fond, et puis une conduite contraire à Dieu, ce contraste si bizarre, au fond, nous le retrouvons quand même dans n'importe lequel de nos péchés. Nos péchés à nous, de chrétiens, et nous continuons d'en commettre. Le Nouveau Testament nous avertit, ne nous imaginons pas que nous y échappons, mais pour chacun de nos péchés, le moindre des péchés, une parole méchante dite à quelqu'un, c'est une contradiction énorme de la grâce que nous avons reçue. Comment nous qui avons reçu la grâce, qui nous sommes unis à Jésus-Christ, qui avons compris qu'il a porté nos péchés, comment pouvons-nous encore commettre des péchés? Cela nous humilie une deuxième fois. Et je pense que cela nous apprend, au moins, c'est au moins l'aspect positif que cela peut revêtir, que nous ne pouvons pas nous tenir devant Dieu sur la base de nos œuvres de chrétiens. C'est toujours par la foi seule que nous tenons devant Dieu, par la foi seule que nous pouvons nous approcher de lui comme du Père miséricordieux. Le message du XVIe siècle, c'est toujours le message pour nous aujourd'hui, je n'en doute pas. Je ne serais pas là si je ne le croyais pas du fond du cœur, si ce n'était pas au centre de ma vie. Mais que dire aujourd'hui par rapport à la proclamation du « par la foi seule » et du rapport avec l'Église catholique aussi? Je pense qu'on peut dire d'abord que le langage de l'Église catholique a énormément changé, comme pour le sola scriptura ou pour le sola fide. Sola fide, par la foi seule, ça accroche encore, hein. Mais sola gratia, par la grâce seule, ça maintenant les catholiques le disent très très couramment. Alors il faut peut-être voir de plus près ce que cela signifie exactement, mais les catholiques ont été d'accord pour lever les anathèmes du Concile de Trente. La déclaration de 1999, dite d'Augsbourg, le 31 octobre 1999, lève les anathèmes. Donc c'est un changement que nous pouvons enregistrer. Deuxième remarque, c'est un peu parallèle à ce que je disais la fois dernière, hein, pour l'Écriture, il reste encore des problèmes sérieux. Et la déclaration d'Augsbourg le reconnaît. La déclaration d'Augsbourg dit que nous sommes d'accord pour ne plus nous prononcer l'anathème les uns sur les autres, mais il y a encore des questions très importantes, nous ne sommes pas entièrement d'accord. même cette déclaration entre luthériens et catholiques de l'époque marque cette différence. Et je ne pense pas que la déclaration que le pape François, il y a trois jours, ou quelques jours, a faite avec la Fédération luthérienne mondiale ait changé ce point. Je ne l'ai pas lu dans son texte exact, mais je pense que c'est toujours la situation. Troisième remarque, dans notre actualité, il y a un nouveau problème qui ne s'opposait pas au XVIe siècle pratiquement, mais qui est aigu. Par la foi seule, ça veut dire que la foi est nécessaire. Comme moyen, ce n'est pas un mérite, ce n'est pas une œuvre, mais la foi est nécessaire au salut. Or, vous avez dans la chrétienté présente beaucoup, beaucoup de gens qui aujourd'hui le nient et qui comprennent par la grâce seule en excluant la foi comme condition d'application de la grâce. Alors cela, c'est aussi un éloignement très grave du message du Nouveau Testament, et je pense que nous en parlerons un peu plus en détail dans l'Institut biblique commun prévu pour le 19 novembre. En attendant, nous subsistons devant Dieu par la foi, la seule foi, c'est-à-dire par sa seule grâce. Amen.